Bonjour, je suis Bob.
Et bonjour, je suis Ali. Bienvenue dans l'appel de Cthulhu. Et bienvenue dans l'appel de Cthulhu, votre podcast club de littérature où chaque mois, nous nous téléphonons en plein confinement pour nous demander Cthulhu et nous prenons le temps de décrypter. On n'a pas le droit de rassemblement de une personne autorisée et c'est ce qu'on fait puisque de toute façon, on est toujours confinés chez nous quand on enregistre l'appel de Cthulhu.
Ça ne change rien à nos vies.
Chaque mois, je suis avec Bob, ici présente, et je suis Ali et on va lire un classique de la littérature, classique ancien ou classique récent comme ce mois-ci. Puisque là, on va lire un livre de 2008 aujourd'hui.
Absolument, c'est tellement tôt, c'est impressionnant que ça soit déjà un classique. Mais remarque, on l'avait déjà fait avec celui de...
Trois femmes puissantes.
Ouais, Trois femmes puissantes, ouais.
Ouais, bah c'est un peu la même époque, là, puisque Trois femmes puissantes, ça devait être 2009, et là, on est sur un livre de 2008.
On est des dingues.
Mais qui est considéré quand même comme maintenant un classique de la littérature ultra-contemporaine, du coup, puisque ça a été un des plus gros succès de la décennie passée, puisqu'on va vous parler de Je me trompe à chaque fois du titre en le disant, je rajoute des mots là, il n'y en a pas,
Franchement, il est dur.
Le cercle littéraire des amateurs des plus chers de patates de Marianne Schaffer et Annie Barrows.
Voilà.
Et le titre est encore pire en anglais. The Guernsey Literary and Potato Peel Pie Society arrive à dire ça sans te tromper et sans avoir de notes. Ce n'est pas possible.
Je n'essaye même pas.
Voilà. Donc un livre, on voulait un livre un peu feel good pour cette période qu'on sentait, qu'on voyait un peu arriver que ça allait être compliqué.
Ouais, puis ces derniers temps, on avait fait des trucs un peu tristounes. Alors bon, fallait qu'on passe à quelque chose d'un peu plus wouhou.
Alors c'est pas complètement le cercle des patates là, mais c'est quand même plus léger quand même que d'autres livres qu'on a fait précédemment. Et aussi autre chose, l'émission sort avec un petit peu de retard par rapport au planning, tout simplement parce que moi j'ai été en pleine réorganisation Covid-19, j'ai dû passer en télétravail, j'ai eu beaucoup de choses à faire le jour où on devait enregistrer, c'est-à-dire c'est le jour du début du confinement, donc
trois petits trucs à régler quoi.
Matériellement c'est genre pas possible. J'étais en train d'envoyer des mails d'annulation à la terre entière, donc voilà.
T'es vraiment fort.
C'est-à-dire qu'on a dû annuler des centaines d'événements au boulot pour tout ce qui est dans les deux mois à venir. De toute façon, les bibliothèques sont fermées par décret ministériel jusqu'au 15 avril, donc déjà jusque-là, c'est...
C'est trop cool. Enfin, pas moi, je m'en fous, j'y bosse plus.
Oui, mais voilà, puis moi, je bosse pas que en bibliothèque. Enfin, bref, peu importe.
Oui.
Donc voilà, c'est notre actualité, un peu l'actualité de beaucoup, beaucoup de gens.
Ouais. D'ailleurs, prenez soin de vous, ne sortez pas. Ceci est un message du ministère.
Voilà, et touchez vos coudes. Moussez dans vos coudes, éternuez dans vos coudes, voilà.
Voilà, oui, et puis après, absolument. Faites attention.
Et puis, voilà, restez chez vous dans la mesure du possible, parce que même si vous n'êtes pas un patient à risque, la caissière du Carouf, que vous n'aviez peut-être pas besoin de voir parce qu'en fait, il vous restait encore des courses, peut-être qu'elle est une patiente à risque, ou peut-être que son mari chez qui elle va rentrer ce soir est un patient à risque. Donc, ralentissez l'épidémie autant que possible. SVP. Voilà, sur ces messages de prophylaxie. Bob, dis-moi, ce mois-ci, qu'as-tu lu ?
Eh bien, j'ai lu ce que j'estime devrait être un classique et qui aurait dû être dans notre liste. Mais peut-être que tu l'as déjà lu, je sais pas, Le Bois d'Uncton de William Horwood.
Pas du tout.
Et écoute, c'est super chouette. J'ai kiffé sa mère. Alors attends, hop, je prends mes petites notes papier parce que pour des raisons personnelles, je n'avais pas accès à l'ordinateur. Hop là. Donc c'est William Horwood qui l'a écrit en 1980 et ça est paru en français en 1997. Alors bon, c'est 747 pages. On se doute que il faut le lire doucement, quand même. Alors, de quoi
il paraît qu'on a le temps de lire en ce moment.
Oui, c'est vrai,
d'après la légende.
Ouais. Qu'est-ce que Pelorio Kezak. Alors, du coup, on suit les aventures de Brin de Fougère. Moi, déjà, tu vois le nom de c'est trop cool. Brin de Fougère. Alors, c'est une taupe. Eh oui. Une petite taupe qui a eu un destin peu commun. Donc, en fait, il y a aussi la taupe scribe Boswell et puis Rebecca. Et puis, il y a aussi une histoire avec une pierre, avec un P majuscule, tu vois, un culte de la pierre. Et puis, donc voilà, tu suis l'histoire d'un terrier, le Bois d'Uncton, avec plein de taupes. Alors c'est anthropomorphe, mais c'est pas complètement. Enfin, c'est vraiment en fonction du style de vie des taupes. Tu vois? Non, mais je sais pas, ça paraît con comme ça,
Ok, non, pas de
mais c'est
problème.
énorme, sérieusement, c'est énorme. Parce qu'au final, c'est original, c'est
Mais
de la fantasy.
un petit peu comme Watership Down avec les lapins, quoi.
Alors, ça me dit quelque chose, mais de
Ah,
loin.
tu l'as pas lu, les trucs de Watership Down, bah écoute, c'est une recommandation.
D'accord, ok,
Voilà.
merci. Ça n'a pas été adapté en dessin animé ou un truc comme ça?
Ça a été adapté en film, oui, en film d'animation,
Oui, voilà, ouais.
deux fois, je crois, ouais, dont une
Ouais.
fois récemment.
Oui, eh ben c'est un petit peu près pareil. Ouais, effectivement. Donc ouais, voilà, c'est pour ça que ça me dit quelque chose. C'est une écriture assez charnelle et bien anglaise d'ailleurs. Bah ça va bien du coup avec ce qu'on a lu et aussi une écriture franchement bien anglaise. C'est une sorte de Seigneur des Anneaux des taupes, si tu vois que. Ouais. Parce que c'est un roman initiatique. Il y a un grand méchant. Il y a un peu de magie, t'es vraiment dans un univers enchantant, enchantresse, enchanteur, enchanteur,
Enchanteur,
voilà.
enchanteur, je t'ai vu galérer, je voyais les rames là s'agiter dans l'air et je me suis dit, est-ce qu'elles vont
Merci.
retomber, elles vont pas retomber, est-ce que je l'aide pas, mais c'est bon, tu t'es souvenu comment qu'on nage.
Bon, j'ai l'habitude de pas trouver mes mots. Alors, donc moi c'est ouais, franchement, je pense que je vais y repenser pendant un bon bout de temps de ce truc. Déjà parce qu'en plus là. La jaquette, ouais,
La couverture,
la
ouais.
cou c'est pas facile
Mais ça
normalement.
fait un mois qu'elle n'a pas parlé à un vrai être
Mais
humain à cause du confinement. Alors ça...
c'est clair. En fait, moi je suis confinée depuis que j'ai accouché, en fait. Moi, franchement, vous êtes tous des petits joueurs là à galérer parce que ça fait genre une semaine. Moi, c'est bon, quoi. Je suis pas sortie depuis 4 mois, quoi. Donc ouais, c'est La Talente qui l'a sorti en 2007. Ils ont fait une édition. Et là, eh ben, elle est super jolie, tu vois, des fougères et puis deux petites taupes qui se parlent comme ça. C'est trop mignon. Je vous le conseille. C'était 24 € à l'époque quand je l'ai acheté parce que je l'ai pas lu tout de suite, tout de suite. Bref, alors qu'est-ce que je disais? Ouais, je disais
Seigneur des
ouais.
Anneaux des Taupes.
Le Seigneur des Anneaux des Taupes, complètement. Et alors c'est cruel, par contre, c'est plus cruel que le Seigneur des Anneaux. C'est beau, c'est fascinant. On s'attache vite aux petites bestioles, c'est trop mignon. Alors le type, il a écrit des suites aussi, mais ça n'a jamais été traduit en français, c'est dommage. Et puis qu'est-ce que j'ai d'autre? Ouais, c'est la vie des taupes. Ah, j'ai lu sur internet que ça faisait penser à Le Vent dans les Saules, qui aurait été écrit en 1908. Alors je sais
Mais
pas, faudra
oui,
que je le lise du coup parce
Le
que je
vent
ne
dans
l'ai
les
pas lu.
saules, très
Ouais.
très sympa, qui a été adapté plein de fois aussi, notamment en album pour enfants, et les illustrations du vent dans les saules me faisaient rêver quand j'étais petit.
Ah bah voilà, tu vois. Eh ben écoute, il y en a d'autres qui ont dit que c'était le côté poétique de Gormenghast. Alors il faudrait que je relise Gormenghast pour savoir, parce que là j'ai pas vu le rapprochement, mais pourquoi pas. Après tout, peut-être que tu l'as déjà lu Gormenghast?
Non.
Ah oh, franchement pareil, moi recommandation littéraire. Au moins le premier tome est vraiment chouette, même si c'est assez glauque par la suite. Alors du coup, oui, ça parle de quoi? Ça parle de l'amour, de la religion, de la désobéissance civile, de la lutte pour le pouvoir, de la mort aussi beaucoup, de la mort, enfin, de la vie, de voilà. Est-ce qu'il y a un dieu? Est-ce qu'il n'y a pas de dieu? Est-ce qu'il nous tombe sur la tronche? Et voilà, tu vois, ce genre de petites questions quoi. C'est très joli. J'ai un petit passage à vous lire pour que vous voyez un petit peu comme le style est vraiment très british, cruel. C'est pas drôle par contre, hein. Vous attendez pas à des petits trucs drôles. D'habitude, british, c'est un petit peu drôle. Là, ça ne l'est pas du tout. Alors, hop, que je retrouve le petit bout. Ah. À un moment quelconque, sa mère dut comprendre que si elle ne s'alimentait pas, son lait se tarirait, tout en sachant que si elle abandonnait ses petits, ne fût-ce qu'une seconde, ce serait la mort assurée pour la portée entière. Il est difficile d'imaginer qu'elle prit délibérément la décision de sacrifier les membres de cette portée l'un après l'autre, dans l'espoir que l'un d'eux au moins pourrait survivre. Mais nul n'ignore que, placée dans une situation critique, une mère taupe qui a des petits les tue, et même parfois les mange. Peut-être arriva-t-il que le plus faible mourût par manque de lait et à cause de son exposition au froid. Plutôt que de les laisser là dans le blizzard, son corps sans vie ne servant plus à rien, le mangea-t-elle en espérant que cela lui procurerait la subsistance dont elle et le reste de la portée avaient besoin. L'un après l'autre, tous moururent, dans un blizzard le pire qui soit demeuré dans les mémoires à Siabod. L'un après l'autre, elle dut les manger, leur sang se mêlant à la neige et à la glace. L'une après l'autre, les têtes de sa mamelle se desséchèrent. À mesure que la nourriture emmagasinée dans son corps et qui provenait d'un cannibalisme aux dépens de ses propres petits venait à lui faire défaut. Finalement, seul resta Mandrake. Parmi les têtes refroidies, il en cherchait une, vainement, qui fournit du lait à ses efforts désespérés pour se nourrir. Maintenant, ses yeux s'étaient ouverts, mais tout ce qu'il pouvait distinguer était le noir de la fourrure maternelle, le rose de sa mamelle et le blizzard gris qui faisait rage autour. Ainsi, dès les premiers instants, son univers fut composé d'extrêmes. Comme il dut batailler pour préserver sa place, il ignora la paix et le confort d'une tétée sans histoire. Le souvenir, gardé dans l'inconscient, d'une mère détendue, tenant son petit serré bien au chaud, lui fut refusé. Ce fut une lutte pour la vie, dès la naissance. Donc ça, Mandrake, c'est le méchant.
Oui.
Il commence bien.
C'est une folle ambiance.
Hein, c'est cool, hein. C'est cool. Ouais. Donc tu te dis que voilà, donc lui comme ça, il arrive cash comme ça, pas content. Donc il y a de grandes chances qu'il foute la merde un peu partout. Voilà. Et qu'il soit un petit peu cruel. Et donc du coup, bah après, il y a Brin de Fougère qui est dans le coin et puis il se passe des choses. Et puis il y a Rebecca. Et Rebecca, ça a l'air d'être une bonne taupe, tu vois, mais une taupe gentille qu'on aime bien comme ça. Donc voilà, il y a des passages où ils décrivent les rutes des taupes, c'est juste énorme. Et puis c'est trop bien fait parce que ouais, il y a bah forcément il y a du coup des l'instinct animal avec les viols et les choses comme ça. Enfin, tu fais voir, mais c'est trop trop bien écrit. C'est pas parce qu'il y a des viols que c'est bien. C'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est
non,
que
non,
c'est...
mais que c'est littérairement, ça peut être intéressant justement de changer la perspective anthropomorphe et tout ça pour essayer de décrire comment ça se passe dans la tête d'un animal. C'est super intéressant comme exercice. Hein.
Ouais, complètement. Et là, c'est sur 740 pages et donc du coup, après, c'est vrai que tu as l'impression quand tu finis ta lecture, c'est tu sens l'humus en fait. Tu vas te promener en forêt, c'est pas la même chose. Enfin, tu te promèneras en forêt au mois de mai, mais c'est pas la même chose en fait. Et après avoir lu, c'est super bien écrit. Tu sens la fougère, tu sens. Enfin, ouais, moi je vous le conseille à 4000%. Voilà. Bon, 747 pages. Voilà.
Merci pour cette recommandation extrêmement chaleureuse.
Ouais. Bah de rien. Hein, ça m'a fait plaisir. Hein. Et dis-moi, Zali, toi, qu'as-tu lu ?
Alors, tiens, je viens de changer mon livre à la dernière seconde.
Non !
Ah, si !
Mais tu passes ton temps à lire, c'est pas bien possible.
Non, parce que, en fait, je voulais parler surtout d'un auteur, je voulais parler de Norman Spinrad, dont je crois que j'ai jamais parlé.
Il est énorme, énorme.
Ah, t'aimes bien Norman Spinrad?
Ah, ben j'adore Norman Spinrad.
Norman Spinrad,
j'arrive jamais à le dire.
Non, c'est pas facile. Il a un nom qui est dur à prononcer. Mais bon, c'est une légende de la science-fiction, ouais. Norman Spinrad. Il est encore vivant d'ailleurs, et c'est très très cool parce que malgré ses 80 ans bien tassés, il est encore assez vaillant. Il a sorti un bouquin en 2017.
Oh, non, mais il va mourir, il y a le coronavirus. Quoi.
Ouais, je pense que ça va. Quoi qu'il habite à Paris, c'est vénère.
Ah, mais non,
non, il vaut mieux habiter à Paris, je crois, qu'aux États-Unis en ce moment, de ce point de vue-là. Mais...
Ouais, je sais pas, faut habiter à la campagne.
Mais en tout cas, la dernière fois que je l'ai vu, c'était dans une conférence il y a 2-3 ans, et il avait encore non seulement toute sa tête, mais toute sa pertinence, Norman Spinrad, puisque c'est un des auteurs fondateurs de la science-fiction moderne américaine, qui a souvent été assez mal aimé aux États-Unis, figure-toi, parce que trop provocateur et trop
bah
dérangeant.
Oui, forcément.
Et trop dérangeant parce qu'il est
j'avais lu Jack Baron et l'éternité
et Rêve de fer et plein d'autres de ses bouquins et Bleu comme une orange qui est un livre dont je vais parler juste après mais pour juste présenter rapidement le personnage. Donc c'est quelqu'un qui s'est toujours un peu inscrit à rebours de la science-fiction, notamment à l'époque où la science-fiction était quand même une littérature assez optimiste et assez américano-centrée.
Elle a été optimiste à un moment donné, la SF.
Ouais, dans les années 60 quand même, un petit peu. C'est-à-dire que c'était quand même encore une SF qui était très tournée vers la conquête de l'espace, dans le futur on aura des technologies de ouf, machin, et dès les années 60, Norman Spinrad c'est « on va tous crever », et « l'Amérique est décadente », et « l'effet de serre », il en a parlé avant longtemps, tout le monde, etc. Et la civilisation, elle va s'écrouler sur elle-même. En fait, ça a été toujours un grand chantre de... Bon, déjà, assez marqué à gauche, hein, la science-fiction de Norman Spinrad, est assez poil à gratter sur ce que l'Amérique pense être ses bases et pense, se pense en termes d'universel.
Ouais,
puisque
bah,
le,
oui.
Tout le principe des romans de Spinrad, même les plus légers, c'était de dire mais non, en fait, l'Amérique, c'est pas le centre du monde, parce que déjà 95% des gens sont pas américains et 95% des gens nous regardent en nous détestant et n'attendent qu'une chose, c'est qu'on s'écroule. Et du coup, c'est effectivement une science-fiction qui a toujours été très très poil à gratter. Et au départ, je voulais parler d'un court roman qui s'appelle Continent perdu, qu'il a écrit en 70, qui parle d'une Amérique complètement effondrée, visitée par des touristes africains 100 ans après son effondrement. Donc avec du point de vue d'un côté d'un guide américain, donc rendu à l'état de pays du tiers-monde, et d'un universitaire africain qui vient découvrir ce pays perdu, cette ancienne civilisation. Mais en fait, j'ai pas tellement plus de choses à en dire que ça, à part c'est bien. Donc je vais reparler c'est déjà bien. Donc lisez Continent perdu dans la collection Dyschronique, qui est une collection de courts romans uchroniques. Mais je vais vous parler plutôt d'un livre que j'ai lu il y a quelques années qui m'a vraiment beaucoup marqué. C'est un livre qu'il a écrit en 2003 qui s'appelle He Walked Among Us, qui a été traduit chez nous, chez Fayard, par Il est parmi nous. Est-ce que tu as lu Il est parmi nous?
Eh ben pas du tout, dis donc.
Eh ben c'est parce que justement, c'est pas son roman le plus connu que je voulais en parler, parce que c'est un... Alors pour le coup, si vous êtes en... il se trouve assez facilement en e-book, donc n'hésitez pas à l'acheter si vous voulez un gros bouquin, parce que là je pense qu'on est sur du 650 pages aussi, hein, donc on est sur on est sur du gros machin, mais je pense l'avoir lu en une semaine. Il est parmi nous.
Ah ouais.
Tellement il m'a marqué. Parce que ça reprend un petit peu les motifs habituels chez Spinrad, hein, c'est l'effondrement de la civilisation américaine, mais par un biais qui est très très original, c'est le biais du stand-up de comédie, ouais. Puisque il est parmi nous, ça raconte l'histoire de Jimmy Balaban, qui est un agent d'artiste slash vaguement, je crois qu'il est vaguement scénariste ou romancier, mais un peu raté, tu vois. Enfin, il vivote un peu de ça et le reste de son temps, il produit des artistes. Enfin, il essaie de refourguer des artistes, grosso modo, à la télévision américaine, quoi. Et donc, il fait un peu la tournée des bars pour s'occuper, parce qu'il faut faut faire bouillir la marmite, quoi. Et il cherche un peu des mecs émergents dans le monde du stand-up. Et il va un jour, je sais plus où, fin fond du New Jersey, dans un club un peu minable, et il voit un mec qui est tout petit, tout moche, et qui enchaîne les grossièretés sur scène et qui fait bide sur bide. Genre, personne l'écoute, enfin, limite, les gens lui jettent des tomates, quoi. Et le mec s'appelle Ralph. J'ai vraiment un nom de loser, tu vois. Ça... et le gars, en fait, il base tous ses sketchs de stand-up sur le fait qu'il est un visiteur du futur. Qui décrit en fait l'effondrement de la civilisation américaine. Comment la pollution, la surpopulation, les épidémies, la dérégulation de l'économie et tout ça, ça va forcer les gens, genre dans 50 ans, à s'entasser dans des supermarchés pressurisés, et ce sera les derniers îlots de civilisation, ce sera les gens vivront dans les parkings et ils iront faire leurs courses dans des...
Ah, quelle horreur.
Voilà, dans des trucs comme ça, voilà.
Mais et, c'est mes cauchemars, ça, arrête, c'est horrible, ça.
C'est exactement ce que Jimmy se dit, ce mec-là, en fait, il est à la fois pas drôle et en même temps, ce qu'il dit, ça fonctionne, quoi. Ça fait un sketch. Et en fait, Jimmy va essayer de prendre en charge Ralph pour essayer de lui faire une carrière dans le stand-up, en pensant évidemment que ce mec-là, c'est juste un zinzin complètement siphonné. Sauf qu'évidemment, au fur et à mesure de la carrière de Ralph qui va décoller, Jimmy va se rendre compte qu'il y a des choses qui sont beaucoup trop vraies dans ce que dit Ralph. Et toute la tension du roman, c'est est-ce que Ralph, c'est vraiment un voyageur temporel, ou est-ce que c'est un mec dont la routine de stand-up est juste particulièrement visionnaire et anxiogène, quoi. Et c'est un roman qui est fascinant sur notre rapport à ce qu'on croit et notre rapport à ce qu'on a envie de croire et notre rapport à ce truc de, tu sais, tu vois le mur arriver et puis tu fais rien. Tu dis, t'es un peu tétanisé.
T'es
comme
sidéré,
t'es sidéré. Et en fait, c'est tout le propos de ce livre. Ça parle de la sidération qu'on a face à une catastrophe qui arrive et qui, je trouve, résonne bien en ce moment avec
oui,
ce truc de...
Ouais.
ce truc de, tu sais, tu vois les rapports de Air Paris qui dit, ah bah tiens, brutalement, l'air, il est redevenu respirable à Paris. Ouais. Et ah bah, il n'y a plus de pollution en Chine. Et en fait, l'obsession de tous les gens, c'est de dire, ah mais vite, faut tout faire redémarrer comme avant, etc. Et comme si on n'était pas capable d'imaginer autre chose. Et ce roman parle un peu de ça, ce mec qui vient te dire non mais là vous avez encore une chance de faire autrement Et l'intégralité des gens se bouchent les oreilles en disant là, c'est trop compliqué d'imaginer que ce Ralph nous dit est vrai, en fait. Et la fin du roman est particulièrement saisissante de ce point de vue-là. Et vraiment, du coup, je voudrais vous recommander chaudement la lecture de ce bouquin-là, qui est assez haletante, qui a honnêtement un ventre mou, qui est un peu fatigant, parce qu'il y a des moments où ça patauge un peu. Mais dans son ensemble, il est vraiment marquant. Donc, voilà.
On propose deux pavés intéressants au final.
Ouais. Et je le dis d'autant plus sincèrement qu'habituellement j'aime pas trop les histoires de voyage dans le temps. Souvent ça me bof, quoi.
Ah, et tu spoil le truc, quoi.
Bah non, j'ai le mec qui dit qu'il vient du futur, donc c'est une histoire de voyage dans le temps, mais ça l'est pas forcément. Le roman ne répond pas forcément à la question si c'est un vrai voyageur temporel ou pas, et ça je vous le spoilerai pas, mais c'est la trame de fond, c'est une histoire de voyage dans le temps.
D'accord.
Voilà. Et c'est le moment de faire une publicité pour Radio Kawa. Et tu sais quoi? J'ai prévu le coup.
Oh non.
C'est la première fois, je pense, en 250 émissions de l'Appel de Cthulhu.
T'es sûr que c'est pas la deuxième fois?
Peut-être, mais là j'avais prévu le coup, j'ai ouvert un onglet.
Oh mais je suis fier de toi, mais bravo.
Ouais, du coup j'aurais pas à monter cette partie où je dis « Ah, je dois ouvrir l'onglet des publicités de Radio Kawa. »
Oh.
Donc je vais faire une publicité pour Capsule Pod.
Okay.
Et vous allez devoir totalement croire le alimenteur qui va vous dire que c'est génial, parce que j'ai pas écouté Capsule Pod. Mais je vais écouter Capsule Pod parce que c'est dans mon appli de podcast depuis longtemps et qu'en vrai ça a l'air chamé, Capsule Pod.
Oui.
Parce que Capsule Pod, en fait, c'est un podcast d'actualité de la pop culture, comme il en existe tant, sauf que c'est l'actualité de la pop culture d'il y a pile 30 ans. C'est-à-dire que l'émission du 27 février 2020, elle te dit « Ben, on est le 27 février 1990, voilà les choses que vous allez faire cette semaine pour vous
C'est perturbant, ce genre de truc. Ils font ça sur RTL2 aussi, et ça m'a tout perturbé un coup.
Ah, mais je trouve ça génial c'est quoi l'actualité d'il y a 30 ans et je trouve ça trop bien, et c'est Capsule Pod. Et ils ont plusieurs saisons à leur actif, dont la dernière est sur Radio Kawa, et j'ai envie de leur faire des bisous et de vous dire « Allez, écoutez Capsule Pod. »
J'avoue que ça donne envie.
Voilà, et en plus, petit plug personnel, tu sais que Radio Kawa va s'arrêter bientôt et que pour des raisons techniques, Capsule Pod va très brièvement passer comme membre de l'association Nita Dodo, qui est l'association du Calvin Mole Consortium qui va récupérer l'appel de Cthulhu.
Ah.
A priori, ils ne resteront pas chez nous, mais en toute bonne intelligence pour qu'ils puissent récupérer du matos de Kawa, ils vont légalement passer par nous.
On leur prête un appartement parce que les infirmières,
On leur prête un appartement pendant leur déménagement, en fait.
Voilà.
Et quand je dis que Radio Kawa s'arrête en bonne intelligence et de manière organisée, bah, c'est ce genre de choses dont je parle. Et je voudrais notamment remercier la direction de Radio Kawa de rendre tout ça possible.
Oui, absolument, c'est très gentil, merci.
Est-ce qu'on parlerait pas maintenant du cercle littéraire des amateurs d'épluchure de patates, The Guernesey Literary and Potato Peel Pie Society?
Oh là là, c'est tout excitant. Hein.
Eh bien, voilà. Donc, Marianne Schaffer et Annie Barrose.
Merci pour le blanc, c'était sympa, merci beaucoup.
Parce que je ne savais chercher à rebondir sur ton truc de c'est excitant.
Et non, il n'y en avait pas, c'est délicieux, parce que c'est les termes qu'ils utilisent, je trouve ça tellement mignon.
Oui.
Oh, c'est délicieux, c'est charmant.
C'est charmant. C'est un peu désuet.
Oui, voilà. Oui.
C'est un peu désuet et un peu anachronique par moment.
C'est tellement mignon et en même temps, je trouve ça retranscrit. Moi, j'ai kiffé la forme.
Oui.
C'était... Alors, ouais, vas-y.
Voilà. Disons-le, c'est un roman épistolaire dont l'intrigue se passe en 1946.
Voilà, donc d'où le côté désuet de la chose, somme toute.
Somme toute désuet et volontairement désuet, je pense, parce que c'est une vision qui est totalement romantique des années 40. Hein.
Oh, mais complètement. Mais on a envie d'y croire.
Mais complètement.
Mais c'est ça qui est fou, quoi. Et on devient pote avec eux. Tu te dis, je veux trop recevoir une lettre de cette nana et ça donne envie d'écrire des lettres.
Moi, j'avais qu'une envie en refermant ce livre, c'est d'aller à Guernesey, en fait.
Alors
qu'il doit y avoir, bon, peut-être pas en ce moment, mais en pleine saison, il doit y avoir genre juste 3 milliards de touristes et trucs de bibelots, et ça doit être très décevant. Mais j'avais envie d'aller à Guernesey en 46, en fait, tu vois. Ça.
Mais ouais, ça a l'air trop bien, les gens, ils ont l'air trop gentils, tout le monde est trop mignon. Si, il y a une méchante, là, une espèce de vieille peau, là, qui qui rate sur tout le monde, qui dit plein de saloperies, mais oh là là, mais ça avait l'air tellement mignon, tout le monde est là. Lui, machin, oui, il a des travers, mais c'est pas très grave.
Oh, oui.
Lui, machin, mais alors elle, et blablabla. Attends, puis de lire des classiques.
Tout le monde a bon cœur.
Mais oui, tout le monde a bon cœur, mais ça donne aussi envie de lire des tas de bouquins. Aussi.
Ouais.
Et puis Charles Lamb, là, j'en ai jamais lu, je connais même pas, je sais pas ce que c'est. Donc pareil, c'est un auteur qu'ils arrêtent pas de citer, et donc t'as envie de savoir ce que c'est.
Alors, avant d'en arriver là, je vais faire un bref contexte. Qu'est-ce que c'est le cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates?
Ouais, vas-y.
Eh bien, c'est d'abord un énorme succès littéraire de l'année 2008. Énorme succès planétaire, puisque ça a été traduit dans une centaine de langues, je crois. Ça a été un véritable raz-de-marée éditorial, ce qui est pas évident pour un roman épistolaire qui a sujet comme la reconstruction de Guernesey après la guerre. Donc
c'est vrai que franchement, c'est assez inattendu.
Ouais, c'est disons que c'est plus inattendu que les succès littéraires que peuvent avoir Anna Gavalda, par exemple, qui prend des sujets... C'est pas du tout pour déprécier Anna Gavalda, mais des sujets plus faciles d'accès, on va dire. Même si c'est un livre qui est très facile d'accès, hein, le cercle littéraire des amateurs des pluchures de patates.
Il se lit facilement, hein, c'est... Mais on va dire,
quand tu lis la quatrième de Kouf, tu peux avoir ce côté un peu ça n'a pas l'air intéressant. Mais en fait, grosso modo, ça l'est. Et c'est un livre qui a une histoire d'écriture intéressante. Alors, je ne sais pas si tu avais regardé un peu ce...
Si, j'ai vu. Ouais, j'allais en parler avec Marianne Schaffer et achevé par, tu l'as mis, par Annie Barrows. Parce que c'est sa nièce, en fait. Annie, c'est la nièce de Marie. Et Marie, elle avait quel âge? 73 ans, je l'ai mis. Ouais, 73 ans.
Ouais. C'est un livre qu'elle a essayé d'écrire pendant 30 ans, Marianne Schaffer, qui était d'ailleurs bibliothécaire, le savais-tu?
Ouais, elle était éditrice, bibliothécaire et ensuite libraire.
Ouais, voilà. Les métiers du livre, elle a tout fait, quoi.
Ouais.
Et il manquait documentaliste et archiviste.
Ouais, quand même, attends, elle a pas tout fait, tu vois, hein, c'est plus riche que ça. Mais ouais, et donc en fait, elle a eu des tas de soucis de santé sur la fin de ses 73 ans. Et du coup, c'est Annie qui a repris le truc parce que Marie, elle est décédée en 2008, avant d'avoir réussi à achever tout ça. Et ouais. Annie, elle est écrivain, elle écrit elle est en littérature jeunesse, je crois.
Elle est autrice jeunesse essentiellement, oui. Elle est pas très connue en France parce que ses livres ne sont pas traduits pour la plupart.
Ouais.
Encore aujourd'hui, elle écrit des romans des romans de fantasy pour les enfants.
D'accord. Donc voilà, donc elle a écrit ça et voilà, et Marie, paix à ton âme, tu n'as pas connu le confinement.
Tu n'as pas connu ni le succès d'ailleurs.
Oui, ni le succès littéraire. Ouais.
Mais donc ouais, énorme succès au point d'ailleurs que ça a été très très vite adapté au cinéma.
Pas très très vite, pas tant que ça au final, ça n'a jamais été, c'est qu'en 2018.
Et ça fait moins de 10 ans, parce que c'est quand même court pour un livre. Oui, tu me diras, c'est moi qui, en tant qu'historien, raisonne sur des temps trop longs.
Oui, voilà, dis-donc, tu n'es plus dans le temps présent.
C'est les droits qui ont été vendus très vite,
Mais après, ils ont galéré pour trouver la forme et pour trouver les acteurs et les actrices.
Oui, d'ailleurs, le film qui n'a pas été tourné à Guernesey, parce que ça coûte beaucoup trop cher d'aller tourner sur une île, en fait, le saviez-vous?
Ah, c'est nul. Et puis, à Guernesey, en fait, ils n'étaient pas très contents de la publicité qui avait été faite, parce qu'au final... Elle a pris que des noms anglais, alors que là-bas, c'est assez francophone.
Oui, en fait, c'est un roman qui n'est pas très bien documenté sur Guernesey. C'est un des défauts du livre. Hein.
Sauf pour le côté des paysages.
Oui, pour le côté des paysages et pour le grosso modo, la vie quotidienne pendant la guerre, ça c'est ok. Mais tout ce qu'elle décrit, grosso modo, de Guernesey, c'est un peu une vision à la fois de carte postale et à la fois pas très exacte. Ce qui fait qu'il n'y a pas que sur cette histoire de nom que les gens ont un peu râlé, il y a aussi sur ce côté de tous les gens dont les grands-parents avaient vécu à Guernesey ou qui vivaient eux-mêmes encore à Guernesey, disent non, enfin, la société qu'elle décrit, en fait, elle n'existe pas et c'est la vision d'une américaine
qui est venue faire du tourisme. Elle est venue en 1976, je crois. Ou 79, je sais plus.
Oui, dans les années 70.
Ouais. Elle a kiffé et donc elle s'est dit j'écrirai une histoire là-dessus. Et puis elle a fini par le faire. C'est chouette. Bon, après, voilà, les habitants de Guernesey, ils n'étaient pas contents jusqu'à ce que le film y sorte. Et là, bizarrement, il y a plein de gens qui viennent chez eux, ils sont contents.
Oui, voilà, ça a clairement relancé le tourisme à Guernesey, qui n'est pas un endroit. Qui est non plus une place forte du tourisme mondial, hein, on va le dire, c'est une île touristique.
Ils arrivent à avoir du lilas alors que c'est à peine le printemps, tu vois, je veux dire, je suis désolée, c'est quand même chouettos, quoi.
Alors, peut-être pour les auditeurs qui connaîtraient pas Guernesey, ça fait partie des îles anglo-normandes, donc c'est au large de Cherbourg, mais c'est anglais. C'est hasard, voilà. Hasard de l'histoire, il y en a toute une série hein, de ce qu'on appelle les îles anglo-normandes. Guernesey et Jersey sont les deux plus connus, mais il y en a d'autres comme l'île de Cerques par exemple.
Bon, alors moi je ne connaissais pas du tout Guernesey avant de lire ce bouquin.
Et ben il y a quelques dizaines de milliers de personnes en fait qui sont des citoyens britanniques avec une culture on va dire franco-anglaise. D'ailleurs les panneaux je crois de signalisation sont en français et en anglais encore à Jersey, à Guernesey.
Et
il y a une particularité, c'est que c'est le seul territoire britannique qui a été occupé par les nazis pendant la guerre.
Oui. Ils étaient persuadés que waouh, ça leur ouvrirait la porte de Londres.
Ouais, alors ça, c'est pas exactement vrai. C'est surtout une occupation symbolique. Historiquement parlant, l'invasion de Jersey, de Guernesey, grosso modo, ça servait pas à grand chose. Ça aurait pu servir de base arrière pour du ravitaillement si les nazis avaient débarqué en Angleterre. Mais c'était surtout une opération de com', hein, de la part de l'armée allemande, de dire, regardez, on est dans les îles britanniques. Ha ha ha, Londres n'est plus que... Ça fonctionnouillait, mais la plupart, c'est surtout une opération de propagande à destination du marché allemand, hein, je dirais. La plupart des autres pays en avaient un peu rien à foutre que les nazis soient à Guernesey, et c'était d'ailleurs un peu moche pour les gens qui habitaient là, qui n'ont pas été le principal souci de quiconque, hein, puisqu'ils ont été libérés en 1945. Hein, voilà.
Ouais. Bien de savoir que les Allemands aussi, ils étaient en galère, parce que justement, ils étaient abandonnés de tous parce que tout le monde s'en foutait.
Et c'est vrai, d'ailleurs, le livre en parle un petit peu, mais à partir du débarquement, le débarquement en Normandie en juin 44, Guernesey n'a pas été libéré, parce que c'était pas un point stratégique, donc les Alliés n'avaient pas intérêt à aller, enfin, n'ont pas libéré Guernesey, et du coup, les Allemands se retrouvaient un peu coincés, puisqu'ils étaient plus ravitaillés, et donc ils sont, pour certains, tombés malades à cause de la malnutrition, etc., un petit peu comme les habitants qu'ils étaient supposés garder, quoi.
Ben oui. C'est ça le côté le plus triste.
C'est de toute façon, c'est des genres de situations qui sont très très tristes. Alors, de quoi ça parle?
Quand on ne peut pas vivre. Oui.
Voilà, et quand on ne peut pas vivre. Le cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates, de quoi ça parle, Bob? J'ai failli dropper ton nom, c'était pas une très bonne idée.
Oh bah non, alors. Bon, alors du coup, oui, parce que vous en doutez, Bob, ce n'est pas mon vrai nom. Étonnant si mes parents sont très farceurs. Donc,
je mettrai un pouep sur la syllabe où je dis ton nom.
J'ai même pas repéré en fait, alors c'est pas très grave.
Ce n'est pas grave. Alors dis-moi de quoi ça parle ce roman.
Oui, alors attends, de quoi ça. Si je l'ai lu, je vous assure. Eh ben ça parle de Juliette. Parce que attends, je suis en train de me remettre.
Parce que nous, on lit les livres.
Oui, on les lit pour de vrai. Donc alors, du coup, oui, c'est Juliette. Alors Juliette, voilà. Alors Juliette Ashton, c'est une écrivaine.
Oui, voilà.
Écrivaine. Pendant la Seconde Guerre mondiale, journaliste à ce moment-là.
Oui. Elle écrivait dans des journaux. Voilà, chroniqueuse dans des journaux.
Voilà. Et puis là, elle doit, du coup, on lui a commandé un bouquin parce qu'elle travaille avec ses amis d'enfance qui tiennent une maison d'édition, les Stark, et je sais plus qui, mais Stark, ça m'a fait rire. Tout le monde utilise le mot Stark, le nom Stark maintenant dans les.
Parce que c'est juste un nom de famille extrêmement répandu dans le monde anglo-saxon, en fait.
Ouais, donc comme les Dupont, d'accord.
Voilà,
il n'y a pas tellement de Dupont, en fait, en France. C'est un peu un
Si, il y en a plein.
C'est vrai?
Si, Dupont, Dupuis, Martin, en fait, si, il y en a plein.
Ah ouais, mais c'est parce qu'il n'y en a pas tant que ça dans le Grand Est, on va dire.
Oui, c'est pas tellement un nom de l'Est, mais regarde, voilà. Xavier Dupont de Ligonnès.
Voilà, super exemple. Merci.
Patrick Dupont, le danseur. Enfin,
ouais, tu vois, finalement. Donc, il y a les Dupont, il y a les Stark. Voilà, du coup, les Stark, on suit les échanges épistolaires de Juliette qui vit sa vie d'après-guerre et qui doit aller. Faire la promotion de son bouquin à travers l'Angleterre et que ça lui plaît pas trop.
Ensuite... Qui est plutôt une nana quand même assez indépendante et assez badass.
Elle hésite pas à dire allez vous faire foutre à n'importe, enfin à ses prétendants. Hein, ça c'est si jamais ils aiment pas un truc de.
Ouais.
Ouais, j'ai beaucoup aimé la petite anecdote où elle explique pourquoi est-ce qu'elle a failli être mariée.
Oui.
Et il a foutu tous mes bouquins à la cave, le con. Ah, je pouvais pas me marier avec. Ça, c'était marrant.
D'ailleurs, je trouve qu'on est plus sur un personnage écrit comme un personnage de 2008 que comme un personnage écrit comme un personnage de 1946.
Oui.
Il y a un côté un peu anachronique quand même, mais bon,
oui,
allez.
Oui, mais c'est ce qui rend les choses agréables parce que
on va dire que c'est une aventurière.
Voilà, c'est un peu comme Miss Fisher, tu vois, t'es obligé d'avoir des personnages qui sont féministes et un peu plus dégourdis, qu'à
Ça
l'époque,
marche,
je
on
pense
va
pas
dire
que, voilà.
ça marche bien, il n'y a pas de souci.
Et si ça se trouve, on se plante, si ça se trouve, c'était très répandu à l'époque, hein. Non, je blague. Donc, du coup, oui, et puis un jour, elle reçoit une lettre d'un monsieur qui a lu son livre et qui, ah non, qui a retrouvé un livre à elle qu'elle avait vendu ou donné, je ne sais plus. Et du coup, il se décide de lui écrire. Alors, pourquoi il lui écrit? T'es toujours là?
Parce que parce qu'il a retrouvé une carte postale avec son nom dedans, je crois, quelque chose comme ça.
Ouais, puis il décide de lui. Ah oui, parce qu'elle doit noter un truc sur Charles Lamb.
Ouais, c'est ça, voilà.
Et du coup,
C'est une histoire d'annotation.
Voilà, et puis comme une envie de. Voilà, il a envie de lui envoyer un message, voilà, puis lui dire oh,
Oui.
bah, je suis content, merci de m'avoir filé le bouquin. Et puis ensuite, de fil en aiguille, on voit un peu ce qui se passe, les choses avancent. Ce monsieur habite l'île de Guernesey, donc on se doute qu'il va se passer des choses.
Oui, et je pense qu'on peut spoiler au moins jusqu'à la moitié du bouquin. Juliette va finir par aller à Guernesey.
Voilà.
Voilà. Et c'est d'ailleurs marqué sur la quatrième de couverture de mon édition en gros caractère que j'ai trouvé. Première fois que je lis
Voilà.
un livre en gros caractère,
Oh, mais
mais
ça devait
c'était
être
ce qui est.
agréable.
C'était bah, lourd parce qu'il y a plus de pages du coup.
Ouais, c'est sûr.
Ce qu'elle va découvrir là-bas changera sa vie à jamais. Voilà.
Ouais.
Et donc c'est un roman épistolaire où on suit des lettres que Juliette envoie donc aux gens de là-bas, mais aussi des fois des lettres que les gens s'envoient entre eux, et aussi des
Oui.
échanges de cartes postales par moment, ce qui permet
Oh
de
oui,
faire des
c'était
faux
mignon.
dialogues.
Ouais. Oui, c'est vrai. C'était sympa. Ouais, non, puis des télégraphes aussi. Télégrammes, télégraphes. Ouais.
Des télégrammes, oui, effectivement,
Ouais.
parce que le télégraphe c'est l'appareil qui fait ça, je
Ouais,
crois.
donc du coup, des télégrammes.
Ouais.
Ouais. Ouais, c'était marrant. Ouais. J'ai bien aimé écrire en grosses lettres et tout. C'était pas mal. Alors, voilà, on a fait le tour un peu de ce que ça racontait au final.
Oui, sachant qu'il y a quand même plusieurs histoires du coup qui s'entremêlent puisqu'on suit la vie de plusieurs habitants. Alors déjà, il y a un peu les histoires de cœur de Juliette, hein,
Bien
puisque
sûr, avec des détails de l'après-guerre,
avec
sur
exactement.
ou
Et
quand
puis
elle se
avec
rachète une robe, ou quand elle voit son appartement qui est éventré par les bombes.
Exactement, donc c'est un roman post-guerre. On va suivre aussi les différentes histoires des habitants qui eux aussi ont vécu la guerre. Donc ça se passe après la guerre, mais dans les lettres, on va découvrir la vie de certains d'entre eux, y compris d'ailleurs de la vie de certains qui ne sont plus là, parce qu'ils sont parvenus à Guernesey pour une raison ou pour une autre après la guerre. Donc certains pour des raisons tragiques, évidemment.
Ben sinon, ce serait pas drôle.
Et puis on va suivre, le roman se passe sur 6 mois à peu près, 9 mois. Le roman se passe sur 9 mois à peu près, l'évolution pendant 9 mois de leur communauté, de la manière un petit peu dont l'arrivée de Juliette dans cette communauté va un peu bousculer pas mal de choses,
Ouais. Oh, tu
puisque
trouves... Ouais, ça bouscule.
un petit peu, ça bouscule un petit peu l'équilibre entre les uns et les autres, parce que c'est un événement un peu insolite dans un endroit où il n'y en a pas beaucoup.
Ouais, oui, c'est sûr. Oui,
Et puis
ouais. Oui.
ça va aussi un petit peu pousser tout le monde à parler de ce fameux cercle littéraire qui est une bonne occasion de parler de bouquins. Hein, on va dire pour
Ouais.
les deux autrices du livre, c'est aussi une bonne façon de placer des petites références sur les
C'est
romans qu'elles aiment
clair.
bien.
Mais quand tu regardes, il y a quand même pas mal de bouquins ou de classiques où le but, c'est de faire le plus de références possible au final, quoi.
Oui.
C'est fou, ça.
Oui. On pourrait dire que c'est de la cuistrerie un petit peu. Mais d'ailleurs,
Bah
j'ai
oui.
trouvé que
Mais c'était bien amené.
c'était plutôt bien amené. Après, j'ai un peu regretté que l'intrigue parte dans beaucoup de directions et pas beaucoup dans la direction de ce que lisait vraiment le cercle, puisque c'est pas du tout au centre de l'intrigue. On est vraiment
Non,
sur
c'est
l'histoire de
plutôt la
Juliette.
guerre. Ouais,
Ouais.
Juliette et puis l'après-guerre, quoi.
Juliette et l'après-guerre, et j'ai trouvé finalement que c'est pas un roman très littéraire, au sens où il parle pas tant que ça de littérature. Il y a beaucoup de références qui sont droppées, et des fois c'est très très beau, notamment quand les passages sur Charles Lamb
Oui.
ou cette personne qui ne lit qu'un livre de cuisine en boucle. Je trouve ça,
Ouais, ça m'a
c'est
bien fait
hyper drôle.
marrer, ça. Ou alors celui qui dit, j'aurais bien aimé avoir lu ce bouquin-là plus tôt, parce que j'aurais su ce bouquin de poésie-là, je sais plus c'était quoi, parce que comme ça, il aurait pu penser différemment l'arrivée des Allemands plutôt que de répéter qu'est-ce qui nous tombe sur la tête ou un truc comme ça, je sais plus,
Ouais,
mais ça, c'était marrant.
Ouais, mais donc c'est bien quand ça parle de littérature, mais ça en parle pas si souvent, et c'est un roman qui est assez long, et on va dire sur 500 pages, je sais pas s'il en passe 80 à parler de bouquins, et j'ai un peu regretté ça.
Il y avait pas 500 pages, c'est parce que toi t'étais un gros caractère.
Moi j'étais un gros
caractère. 350 pages.
Bon voilà, non mais tu vois ce que je veux dire, c'est pour un truc qui te parle d'un cercle littéraire d'amateurs d'épluchures de patates, ben on va plus te parler d'épluchures de patates que de cercle littéraire au final.
Oui, c'est vrai, ouais.
C'est un peu ce qui fait que j'ai eu des fois du mal à rentrer dedans, parce que honnêtement un des axes principaux de la narration dans ce bouquin, c'est l'histoire d'amour de Juliette, d'abord avec ce connard de Marc, puis avec un autre personnage, et on le voit arriver depuis l'espace, l'autre personnage.
Bah oui, quand même.
Et tu sais où ça va, tu le vois dès que t'as les deux personnages qui sont nommés, et dès que t'as Marc qui devient relou, tu sais très bien comment ça va se finir, et ça met longtemps, et le fait que ce soit résolu dans deux lettres à la fin, avec t'entends quasiment le générique de fin, je me suis dit, parlez-moi plus de livres.
Ouais, moi c'est ça que c'est mon plus gros défaut, parce que moi pour une fois, je trouve que la fin est une vraie fin. Dans le sens où tous les problèmes qu'ils ont évoqués au début, parce que moi c'est ça, parce que tu te moques. Moi ce que j'aime pas, c'est dans les bouquins, c'est quand ils te lancent des trucs au début et qu'ils résolvent pas le problème à la fin. C'est pas juste les fins ouvertes en fait, c'est quand c'est pas du tout résolu et ça me gonfle.
Ne lis pas Il est parmi nous de Norman Spinrad.
Oh, alors que là c'est résolu. Là, voilà, on avance, voilà, c'est bien. Par contre, qu'est-ce que c'est long à arriver alors que tu le vois depuis le début, quoi.
En fait, j'ai trouvé que ce livre est un peu long quand même pour ce qu'il raconte.
Surtout après, alors comment dire sans spoil
Moins que le dit du Genji.
Non, beaucoup moins, surtout après un certain moment, une fois qu'on fait la connaissance de Rémi, par exemple.
Oui, oui. À partir du moment où le personnage de Rémi est introduit dans l'histoire, qu'est-ce que ça ralentit, quoi.
Voilà. Mais avant, ça a du pep, ça a du rythme et tout, c'est à fond. Et du coup, je pense que ça va mettre en parallèle avec le fait que Marie-Anne Schaeffer a commencé à avoir sa santé qui déclinait. Et c'est peut-être sa nièce qui a repris derrière, mais qui du coup a fait du remplissage parce qu'il a fallu retravailler les choses. Et qu'elle a essayé de faire un peu du remplissage pour arriver, je sais pas, peut-être qu'elle avait un contrat d'édition qui lui disait il faut que t'aies 350 pages, mais du coup... C'est poussif.
Ça sent un peu. Il y a beaucoup d'histoires d'habitants qui finissent par se ressembler un petit peu, ou des trucs dont on te dit oui, tu nous l'as déjà dit, j'ai compris que à tel moment il y avait plus grand chose à manger, j'ai compris que les Allemands ils confisquaient le bétail, etc. C'est pas parce que tu me le dis 5 fois que je vais le comprendre plus, tu vois. Enfin,
voilà, c'est ça. Ouais. Il y a des répétitions. Donc là, à mon avis, c'est Annie qui a rajouté des trucs à la demande des éditeurs, quoi. Et c'est dommage. Mais autrement, le début jusque, on va dire les deux tiers du bouquin sont vraiment vraiment chouettes. Moi, j'ai trouvé ça rafraîchissant. C'est frais, voilà.
Oui, c'est frais. Et puis, effectivement, il y a un côté, comme tu disais tout à l'heure, qui est un petit peu délicieux à découvrir le personnage de Juliette. En fait, je trouve que tout le début du livre, quand Juliette, elle parle, j'avais l'impression d'entendre du jazz, tu vois.
C'est mignon, t'as l'impression d'être en train de
danser avec elle, tu vois. Elle est vive d'esprit, elle a un sens de la répartie qui est assez dingue.
Si tu veux, je vais lire la lettre de Suzanne Scott à Sydney du 25 janvier 1946 avec l'histoire de la théière.
Ouais, vas-y, parce qu'en plus ça permet de bien saisir le personnage de Juliette, et en plus c'est au début du bouquin, donc ça vous spoile rien.
Ouais. Cher Sydney, n'accorde aucune foi à ce que disent les journaux. Juliette n'a pas été arrêtée et emmenée avec les menottes. Elle a juste été réprimandée par un gendarme de Bradford, qui avait grand mal à garder son sérieux. Elle a bien jeté une théière à la tête de Gilly Gilbert, mais il ment lorsqu'il prétend qu'elle l'a ébouillantée, le thé était froid. Et bien loin de l'avoir frappé de plein fouet, elle l'a tout juste effleuré. Le directeur de l'hôtel a refusé d'être dédommagé pour la théière. Elle était à peine ébréchée. Néanmoins, les hurlements de Gilly l'ont obligée à appeler les gendarmes. Voici l'affaire dont je me tiens pour l'unique responsable. J'aurais dû refuser à Gilly son entretien avec Juliette. Je n'ignorais pas que cet individu méprisable était une des limaces mielleuses, qui travaille pour The London Cry. J'ai un super accent. Je savais en outre que Gilly et le LHNC sont jaloux comme des poux du succès de l'article du Spectateur sur Easy Bickerstaff et de celui de Juliette. Nous venions de regagner l'hôtel après avoir... Est-ce que je continue ou pas ?
Non, parce que t'as fait l'anecdote, donc je pense qu'on a vu un peu l'essentiel du caractère de Juliette, en fait, qui est vraiment le point très fort quand même de ce bouquin, parce que même si ça n'a aucun sens historiquement parlant, c'est super attachant d'avoir un personnage comme ça, quoi.
Mais oui, c'est trop mignon, et c'est justement le passage où on apprend qu'elle a failli être mariée. Et pourquoi donc ? Ouais, voilà. On
voilà.
A un petit suspense comme ça. Donc ouais, vous voyez, c'est assez rafraîchissant, ça se lit bien, c'est british encore, tu vois, je veux dire, on a la théière, on a...
Ah oui, d'ailleurs, ça n'y va pas avec le dos de la cuillère sur... Hé, hey, t'as vu, ça se passe en Angleterre, t'as vu l'Angleterre, t'as vu
Il y a tous les clichés, c'est... elle insiste bien, c'est son truc. Ouais, mais en même temps, voilà, c'est une américaine, t'es obligée, tu utilises les clichés, quoi. Elle parlerait de la France, elle parlerait du...
Ah, on en aurait de la baguette, hein.
Voilà, on aurait de la baguette, on aurait du béret, voilà, on aurait de l'apéro. Est-ce qu'il y a l'apéro, ça fait depuis combien de temps que c'est devenu cliché chez nous?
Je ne sais pas, je ne connais pas l'histoire de l'apéritif en France, mais...
Chers auditeurs, auditrices, si vous le savez, faites-nous en part, s'il vous plaît.
Et qu'on se renseigne là-dessus.
Oui.
Oui, en fait, c'est... Et d'ailleurs, il y a quelques moments qui se passent en France, dans le bouquin.
Oui.
Et je me suis dit, ouais, c'est peut-être bien qu'il n'y en ait pas plus, parce qu'effectivement, le côté très cliché, et le côté même les toponymes qu'elle invente, c'est « Oh, la Valmont sur Béret », tu vois, enfin, j'exagère un peu, mais...
Ouais, mais tu vois, ça m'a fait penser, enfin, c'est vrai que ça, j'ai pas trop retenu, moi, ce qui m'a pas mal frappé, c'est ces scènes qu'elle décrit de villes dévastées, parce que...
Ouais.
Quand j'avais écrit la biographie d'une dame qui habitait justement en Normandie quand il y avait eu la libération,
ouais.
Elle m'avait montré des photos et c'était terrible.
Tout est par terre, ouais, tout ça.
Ouais, ouais, bah, que tout est par terre et que t'as des façades qui restent... Enfin, là, c'est plutôt à Londres où t'as des bouts d'immeubles qui restent... Tu vois le papier peint, en fait,
ouais.
Tu vois des trucs éventrés. Et,
oui,
et
il
tu vas,
des bouts de charpente. Et
voilà, c'est ça. Ouais, tu sais que là, il y a eu un bâtiment et qu'il y a eu des vies dedans. Et voilà, et là, tu vois juste des reliquats. Et c'est vrai que c'est très bien décrit parce que j'ai revu ces photos que cette
ouais.
dame m'avait montrées d'après-guerre. Et j'ai trouvé ça chouette.
D'ailleurs, un des trucs que le livre fait très bien, c'est que ça romantise beaucoup Guernesey, etc. Mais ça romantise pas la guerre.
Ah oui,
ça prend la guerre très très au sérieux,
ouais.
et les dommages que ça fait, et les maladies que ça cause, et ce que ça fait, la malnutrition aux gens, etc. Parce que, bon, le livre s'appelle « Le cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates » à cause de l'anecdote du fait que les gens étaient obligés de manger de la patate à la patate et de faire des tartes à la patate, parce qu'en en fait, ils ne mangeaient plus que ça, et
les épluchures au four, ça donnait un peu de croustillant.
Ouais, et ça rend pas ça glamour du tout, en fait, à aucun moment. Il y a plein d'autres choses qui sont kitsch, en fait, dans ce livre-là, mais le rapport à la guerre, l'est pas du tout, et quand ça parle pas des camps d'extermination, mais des camps de concentration, ça le fait pas de manière à dire... ça le fait pas de manière légère, en fait. Et,
mais c'est pour ça que c'est bien ce contraste entre ce côté vraiment dur de la guerre qu'elle décrit, qui est magnifique aussi, tout ce qu'il peut y avoir comme le fait que... Il y a des êtres humains allemands qui sont bien et des êtres humains allemands qui sont méchants et inversement. Et c'est vrai que ça fait du bien d'avoir ce petit côté cliché de la théière, de ce côté jazzy qu'on entend, la mélodie, tout ça, parce que c'est tellement dur ce qu'elle l'aborde, mais de manière tellement douce, tellement jolie, que ça fait du bien.
Oui, d'ailleurs, le livre aborde aussi cette question-là, hein, de toute une garnison allemande coincée avec une population civile pendant 4 ans, bah, évidemment qu'il y a des gens qui tombent amoureux, et évidemment qu'il y a des enfants qui naissent de cette union-là. Et
ça m'a fait tellement mal au cœur, sa mère.
Bah, ouais, non, mais c'est un vrai truc que les Européens, en fait, ont mis énormément de temps à affronter. Et le fait que ce soit des Américaines, en fait, qui écrit ce livre-là, je trouve que ça leur donne aussi la capacité d'écrire là-dessus sans être dans l'émotionnel ou sans être dans le jugement. Parce que, entre guillemets, les Américains n'ont pas vécu ça.
Oui.
Et je trouve que c'est intéressant d'avoir un point de vue un peu extérieur sur cette question-là aussi.
C'est vrai. Et l'analyse qu'elle fait aussi, à savoir que quand elle va en France, justement, où elle dit que, en France, ils ne parlent pas de tout ce qui s'est passé. Ils font comme si rien ne s'était passé, et qu'il fallait mettre un mouchoir dessus et ne plus en parler. Et c'est tellement ça, et c'est tellement ce qui fait qu'on paye maintenant.
La défiance, de la même manière,
l'individualisme des gens, quoi. Et c'est... C'est ça, on n'a jamais parlé de tout ça.
Et mais c'est de la même merde. Manière qu'on n'a pas parlé après de la guerre d'Algérie ou enfin des guerres coloniales en général.
Ouais, complètement. C'est ça, on se tait sur les traumatismes et là c'est encore en train de refaire la même chose. Ils vont te dire mais non mais pas de polémique, il faut pas parler de ce qui. Bah non mais si les gars, c'est maintenant qu'il faut en parler et ça sera encore après qu'il faudra en parler. Mais il faut arrêter ce côté ridicule français de mettre un mouchoir sur les problèmes. C'est pas ce qui va empêcher qu'ils reviennent pas. Ils reviendront toujours.
Oui, je pense que c'est pas qu'un trait français, mais on va dire que c'est très prononcé. Quand on
c'est
a fait,
très lâche.
On va dire quand on a fait, bah toi et moi, on a fait une fac d'histoire, hein, donc c'est un trait national, on va dire, de dire à la fin d'une crise, on dit que c'est l'Union nationale, comme ça on dit qu'il n'y a pas eu de crise, quoi.
Oui, voilà, c'est ça. Mais il faut pas se laisser berner par ce genre de choses, par ce genre de discours.
Oui, et du coup, je trouvais ça intéressant aussi, effectivement, d'avoir le point de vue de quelqu'un qui est très extérieur à ça, sur des faits historiques. C'est mine de rien, enfin, on l'a dit, c'est un roman qui n'est pas toujours parfait dans la manière dont il présente les choses, c'est pas toujours exact, mais c'est très documenté.
Oui.
Et que ce soit sur les descriptions, sur la guerre, sur des événements précis, ça, vous apprendrez rien de faux, en fait, fondamentalement, en lisant ça. C'est un peu romantisé, enfin, ça, romanticisé. C'est un peu romancé, c'est parfois un peu anachronique, mais tout ce que ça raconte sur l'après-guerre, en fait, c'est assez juste. Ouais. Et moi, ça m'a pas étonné que ça ait mis 30 ans à être écrit, en fait, ce livre-là.
Ouais, non, moi non plus. Il faut la maturité pour écrire ça. Faut la maturité, faut le recul, faut pas l'émotion immédiate. C'est non, franchement. Non, il était chouette. Moi, je l'ai trouvé chouette.
C'est un bon moment. Loin de là, pas mon préféré qu'on aura lu pour l'émission, mais je l'aurais pas lu sans l'appel de Cthulhu, honnêtement. J'avais un a priori qui était vraiment ultra snob par rapport à ce truc-là, en me disant... Parce que moi, j'ai commencé à bosser en bibliothèque quand c'était un succès.
Tu l'entendais tout le temps et t'en avais ras-le-bol.
Tout le temps, et puis qui sait qu'emprunter ça, honnêtement, c'était les mamies, quoi. Enfin, les petites mamies qui prenaient des romans du terroir. Moi j'avais l'impression que c'était Barthélemy le sabotier de la Meuse, tu vois, enfin, et je m'attendais vraiment à un truc comme ça, et non, en fait c'est un livre qui tient totalement la route et son succès est pas volé, quoi. Le succès de Barthélemy le sabotier de la Meuse n'est pas volé non plus, mais là pour le coup je sais que je suis vraiment pas la cible, quoi. Ça.
Ouais, après le bouquin est chouette, après de là à en faire un classique,
c'est trop tôt pour savoir. Est-ce qu'on en parlera encore dans 20 ans, je sais pas.
Mais je suis pas certaine, hein, parce que il reste un petit peu en tête, mais sans plus, déjà le titre est tellement compliqué que tu le retiens pas, quoi.
Ouais, mais il est marrant.
Il est super marrant.
Totalement dans le ton du livre, et ça c'est cool.
Ah, j'ai quand même un personnage adoré. Tu te doutes? Elisabeth.
Ah, bah bien sûr, oui.
Évidemment, on ne peut pas ne pas aimer Elisabeth.
Bah, c'est un peu un personnage parfait, en fait. Hein.
C'est ça.
Elle a pas tellement de défauts, quoi.
Non, pas beaucoup. C'est ça qui est marrant.
Bah, vous aurez compris que c'est quand même plutôt. C'était plutôt une bonne lecture ce mois-ci pour nous.
Oui. Ouais. Voilà. Après, je l'ai pas lu d'une traite parce que je trouve qu'il peut être un peu endormant.
Ah bah j'ai eu beaucoup de mal à ne pas m'endormir dessus, mais pas d'une mauvaise façon.
Non, voilà.
C'est-à-dire que c'est tellement apaisant que.
Oui, voilà, c'est
pas
ennuyant.
C'est pas des trucs de SF anxiogène, tu vois.
Non, voilà, t'as l'impression que t'as une maman qui est là à côté de toi, qui te prend dans ses bras et qui te fait câlin, quoi.
Ouais.
Enfin, ouais, ça a été mon. Voilà.
non, mais je vois très bien ce que tu veux dire. C'est un livre. C'est un livre qui est réconfortant, voilà, c'est exactement ça, et c'est bien d'avoir des livres réconfortants aussi, qui ne sont pas des livres, des fois, avec des gens qui sont malheureux à Dakar, ou Peter Pan qui génocide des gens, tu vois.
Oui, c'est vrai. Non, c'est vrai, là, c'était vraiment réconfortant, tout mignon, c'est peut-être pour ça que ça deviendra peut-être un classique.
Peut-être,
on verra.
Peut-être. Ouais. Voilà. Et on n'en a pas parlé avant, mais qu'est-ce qu'on va lire le mois prochain?
Oui, alors, attends, on n'avait pas dit un truc.
Je ne sais pas, on avait peut-être dit, alors non, la pierre et le sabre, on avait dit qu'on le ferait cet été. Moi je te proposerais bien qu'on lise Le désert des Tartares de Dino Buzzati, parce que je l'ai lu mais il y a genre 25 ans, 20 ans, parce que sinon je l'aurais lu à 10 ans, ça aurait été tôt, et j'en ai vraiment quasiment aucun souvenir, si ce n'est que je l'avais adoré, et j'ai vu que tu as mis un petit cœur aussi dans le truc.
J'ai mis un petit cœur.
Bah, t'as mis un petit losange.
Si j'ai mis un petit losange, alors pourquoi pas, alors attends,
sinon on peut regarder autre chose, hein.
Attends, j'essaye de retrouver. Attends, c'est où des trucs à lire pour émission?
Regarde dans le tableau.
Ouais. Tac. Alors.
Et si tu veux en lire un sur lequel on n'a rien mis du tout, c'est ton inspiration du moment, moi je m'en fiche. Ma seule contrainte, c'est qu'il va falloir que ça se trouve pas trop difficilement en e-book. Voilà.
Bah, pareil, ouais, non, c'est clair. Moi, c'était la montagne magique, peut-être, de Thomas Mann.
La montagne magique de Thomas Mann. Oh, on peut partir là-dessus si tu veux.
J'ai jamais lu, toi non plus, a priori.
Non, je l'ai pas lu.
Parce que Le souci de l'autre, si tu l'as déjà lu, c'est un peu embêtant.
Oh, mais je l'ai lu, mais c'était il y a vraiment longtemps que je l'ai lu. Mais ok pour Thomas Mann avec La montagne magique.
Ouais, allez, ouais. On fait ça alors.
Conférence de rédaction en direct, vous avez vu, c'est ouf.
Ouais, on est comme ça, c'est comme ça que ça se danse. Voilà.
Exactement, ouais. Et maintenant, dans 29 jours, très exactement, je vais créer le conducteur en disant « Ouais, pas créer le conducteur !»
Vite, il faut qu'on se dépêche.
Et là, vous avez l'intégralité de notre process de travail pour l'appel de Cthulhu, quoi.
Exactement, vous voyez un petit peu, on est des dingos, des dingos. Par contre, je vais devoir arrêter parce que le bébé pleure beaucoup.
Eh ben moi, je vais devoir arrêter parce que je dois aller retourner télétravailler.
Ok, ça marche. On espère que vous êtes bien amusés.
Voilà, youpi, c'était l'appel de Cthulhu numéro 14, 15, je sais pas exactement combien.
Ouais, je sais plus non plus, mais ce qui est sûr, c'est qu'on vous a proposé des bouquins qu'il faut que vous lisiez parce qu'ils sont trop bien.
Exactement, et on vous fait plein de bisous, et télétravaillez bien, et prenez soin de vous et de vos proches, et ne sortez pas si vous n'avez pas...
Non, ne sortez pas.
Si vous pouvez ne pas sortir.
Oui, faites votre max. Allez, gros bisous.
Ciao. Autour du canapé lit. Je sème au vent sous les draps du sable de Normandie. Je me balance du haut de l'armoire. Dans tes yeux, tête la première. Ils sont pas bleus, c'est pour mon histoire. Je sais que la mer est derrière. Je m'évade en panoramique sur les dunes de mon poster. Où un soleil synthétique chauffe la moquette en pur mohair. C'est mes petites vacances entre mes quatre murs. Les fissures du plafond où dansent les phares des voitures. C'est mes petites vacances entre mes quatre murs. C'est mes petites vacances, ma ville est chaque tour. Quand j'ai des frissons partout, dans les séracs du congélateur. Faire un bivouac près du radiateur. Planqué, caché sous mon évier, je vais traquer les blattes insolentes. À la sous rampant des tuyaux mouillés d'une jungle évanescente. Ma voisine tue son mari, coup de marteau et le sang fume. Et je danse comme une furie au rythme chaud de son enclume. J'ai un peu rempli le conducteur.
Mais c'est parfait. Parce que moi, j'ai mes notes parce que je pouvais pas accéder à l'ordinateur comme il travaille à la maison. Donc,
pas
voilà.
De soucis, pas de soucis. Voilà, tu vois. Du coup, pour une fois, j'ai écrit des choses dans le conducteur.
Ouais, c'est cool.
Sauf en face de Zali qui a tué, comme d'habitude. Mais ouais. Parce que je parle pas du livre dont j'avais prévu de parler. J'en parlerai le mois prochain.
Ouais, et bah écoute, moi non plus je parle pas du livre que j'avais prévu de parler.
Et bah voilà, ça nous fait un point commun, c'est formidable.
Mais oui, moi j'ai même triché.